Bonjour à tous. Bonjour à tous. L'objectif de cette communication est de présenter l'évolution. Alors, on n'est pas sur la première diapo, mais bon, c'est pas grave. Et de présenter l'évolution des recherches autour des référentiels de silicites, appelés également lithothèques, en fonction des questionnements, de l'évolution des questionnements archéologiques. Et les travaux sont actuellement menés dans le cadre de plusieurs programmes, les programmes collectifs de recherche réseau de lithothèques régionaux et un programme national, le groupe de recherche SILEX. Donc, les lithothèques de silicite regroupent des roches siliceuses susceptibles d'avoir été taillées par l'homme durant la préhistoire. Ces référentiels sont utilisés dans le cadre de déterminations de provenance des matériaux constituant les industries lithiques taillées et ils permettent d'aborder les questions de mobilité, de territoire, de circulation et les relations intra- ou interculturelles. Diapo suivante. En fonction du contexte géologique d'un secteur ou d'une région donnée, ces lithothèques vont inclure du silex, des tchertes, de la silice hydrothermale, de la radularite, des silcrètes ou encore de la rhyolite. Diapo suivant. L'histoire de ces référentiels est liée au développement de la pétro-archéologie, qui est un terme proposé dans les années 80 par Annie Masson. À partir des années 1940, les questionnements sur les provenances et les approvisionnements sont soulevés de manière ponctuelle et des prospections limitées autour des sites étudiés permettent dans un premier temps d'évaluer des distances d'approvisionnement et d'identifier des sources. Diapo suivante. Au tournant des années 80, le développement de l'approche technologique va intégrer l'approvisionnement en matières premières comme première étape des chaînes opératoires qui sont à présent au cœur de l'analyse des industries lithiques. C'est dans ce contexte que des programmes collectifs vont commencer à émerger et s'attacher à la constitution de référentiels régionaux. Et plusieurs vont se constituer à partir des années 80, même si les plus anciennes remontent aux années 70, jusque dans les années 2000 et actuellement. Donc l'étude, avec l'introduction de l'approche technologique, l'étude des matières premières n'a plus seulement vocation à identifier des sources, mais elle doit également fournir une clé pour distinguer des ensembles techno-économiques homogènes. Il n'est plus suffisant dans cette perspective d'identifier simplement une formation géologique ou un secteur géographique, mais on recherche vraiment la détermination précise du lieu de collecte. À partir des années 2000, qui marque un tournant, s'enclenche une dynamique de renforcement méthodologique et théorique de la pétro-archéologie. L'avancée la plus significative est l'introduction du concept de chaîne évolutive du silex par Paul Fernandez et ses collaborateurs, qui a démontré qu'un même type de silex formé dans une formation lambda va évoluer en fonction et va enregistrer les caractéristiques nouvelles faciologiques et physiques au niveau des cortex en fonction de son lieu de résidence, c'est-à-dire de son gîte ou son point de collecte, qui correspond donc à un lieu de collecte précis dans le paysage. Diapo suivante. Donc c'est ce contexte historique de la recherche qui va impacter la constitution et la conception des lithothèques, des prospections et de l'échantillonnage. D'abord, on va indiquer la polarité par une flèche sur l'échantillon au moment du prélèvement pour distinguer la face reposante de la face exposée. Ensuite, du point de vue des échantillonnages, on va passer d'échantillonnages relativement ponctuels à des maillages beaucoup plus resserrés quand on se situe dans un secteur géologique ou lithologique riche en silex. Ensuite, on va passer de l'exploitation un petit peu brute des cardiologiques à un travail sur le terrain qui va permettre des relevés cartographiques, des contours des formations à silex plus précis que les cardiologiques et qui va permettre aussi d'inclure les formations quaternaires. Et puis, on travaille depuis quelques années également avec les SIG. Enfin, on va s'attacher à effectuer des prélèvements tout d'abord en position primaire et à multiplier les prélèvements en position subprimaire et secondaire pour suivre justement la variabilité gyptologique des silex. Diapo suivante. Et cette phase de terrain va être vraiment déterminante ensuite pour les identifications de provenance. Donc, du point de vue de l'organisation des lithothèques, le classement qui prévalait avant l'introduction du concept de chaîne évolutive se résumait à une entrée géographique ou un classement par entrée géologique. À présent, une troisième voie est ouverte en considérant l'entrée fasciologique ou un type génétique, pardon, va être regroupé avec ces différents types génétiques, gytologiques. Pardon. Donc, la filiation génétique consistant à suivre le parcours et prélever un même type génétique dans chacun des gîtes sur lequel il a transité. Et actuellement, on a ouvert aussi un chantier de reprise des inventaires des lithothèques, puisqu'on se situe à un point de bascule où finalement les premières lithothèques qui se sont constituées sont en passe d'être transmises à d'autres. Une première génération d'archéologues commence à partir à la retraite. Et dans le cadre de ces transmissions, on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin pour avoir des inventaires complets sur les gîtes qui sont déjà présents dans les lithothèques. Diapo suivante. Donc, du point de vue de l'analyse des échantillons également, on est passé de l'usage isolé de techniques, donc macroscopiques, mésoscopiques, lame mince ou encore analyse géochimique, qui était auparavant utilisé de manière séparée, à un continuum analytique où chaque niveau d'observation s'appuie sur le précédent. Diapo suivant. Enfin, l'objet d'observation lui-même a évolué puisque au départ, les premières approches ne portaient attention qu'à la matrice du silex, alors qu'aujourd'hui, on observe trois champs différents, le cortex, le champ cortical pour obtenir des informations sur la gytologie, le champ textural pour obtenir des informations génétiques sur l'environnement dans lequel le silex s'est formé. Et on considère à l'intérieur de la matrice différentes zones, sous-corticales, inférieures ou supérieures, zones internes, etc. Et puis un champ d'observation taphonomique, pour le coup sur le matériel taillé, pour voir tous les impacts après le dépôt du silex sur le site. Diapo suivante. Donc, à partir de ces éléments et des enjeux scientifiques qui se sont développés au fil du temps, qu'est-ce qu'un référentiel de silicite aujourd'hui? Ou plutôt, que devrait-il être idéalement? Alors, tout d'abord, vous l'avez compris, diapo suivante, il s'agit d'une collection physique avec des échantillons et leur documentation de terrain associée, comme des carnets de terrain. Ces échantillons physiques, diapo suivante, peuvent prendre plusieurs formes et être conservées donc sous la forme d'éclats de différentes tailles pour correspondre au mieux aux artefacts qu'on va étudier. Ils peuvent être représentés sous la forme de blocs, de lames minces ou de sucres. Et je rajouterai aussi sous la forme, par exemple, d'éclats altérés thermiquement pour permettre des comparaisons dans le cas de chauffe. Mais ces échantillons physiques, finalement, ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. Diapo suivante. Ces échantillons vont être associés à des données spatiales qui décrivent le lieu de récolte et la formation géologique associée. Diapo suivante. Il y a ensuite des données analytiques constituées par les données sur les contextes génétiques et contextes gytologiques, donc la formation où il s'est formé le silex et la formation éventuellement où a été récolté le silex si elles sont différentes. Diapo suivant. L'étude des échantillons à différents niveaux permet de réunir des données sur les caractéristiques pétrographiques ou géochimiques et techniques, c'est-à-dire la morphologie des silex et tout ce qui peut se rapporter à leur aptitude à la taille. Diapo suivant. Donc, combien de lithothèques en France rassemblent l'ensemble de ces informations pour chaque échantillon? Peu, voire pas actuellement, mais on y travaille. Et en 2016, justement, a été lancée une enquête nationale, diapo suivante, sur les lithothèques pour établir un état des lieux et avoir une meilleure idée de la couverture géographique des lithothèques, de leur état d'avancement et de leur documentation. Cette enquête avait également pour vocation de constituer un annuaire des acteurs. Donc, elle a permis de réunir et de faire l'état des lieux des informations sur 39 lithothèques qui couvrent toute la France et certains territoires des DOM-TOM. Et certaines, d'ailleurs, ont aussi une vocation transfrontalière, notamment avec l'Italie, l'Espagne ou encore la Belgique. Donc, l'état d'avancement et la logique de constitution de ces lithothèques s'avèrent très hétérogènes, témoignant du cloisonnement de la recherche qui avait prévalu jusqu'alors. Elle est hétérogène du point de vue du nombre d'échantillons conservés, notamment, puisqu'on a des lithothèques qui présentent moins de 100 échantillons de silex et d'autres plus de 1000. Et puis, elle est hétérogène du point de vue des stratégies de terrain, de la documentation et des méthodes analytiques utilisées. Diapo suivante. Donc, à l'issue de cette enquête, mais également à la suite d'une école thématique organisée à Nice et de la dynamique de recherche déjà amorcée depuis plusieurs années, nous avions la volonté de passer d'une situation hétérogène à l'encouragement d'initiatives diverses dans un cadre collectif structuré. Diapo suivante. C'est donc dans cette optique qu'a été créé en 2019 le GDR Silex pour constituer un maillon à l'échelle nationale afin de réunir les différentes initiatives qui étaient déjà opérationnelles pour certains à travers le réseau de PCR, réseau de lithothèques dans différentes régions. Donc le GDR assume à présent un rôle d'agrégateur de données, de production d'outils partagés, d'harmonisation des méthodes, et il s'articule avec ce réseau de PCR qui produit les données au plus près du terrain. Diapo suivante. Dans ces différents cadres, sont en cours d'élaboration différents outils qui sont adossés et imbriqués les uns dans les autres. Tout d'abord, une base de données nationale pour favoriser l'harmonisation des pratiques et l'agrégation des données. Et puis aussi le développement de stages de formation. Diapo suivante. Alors, la base de données s'appuie ou va s'appuyer sur un référentiel thématique sur la caractérisation du silex, créé au sein du Thesaurus Pactols. Donc, les champs de la base de données se référeront au vocabulaire ainsi organisé et le travail d'intégration des entrées du lexique constitué par Paul Fernandez et ses collaborateurs est en passe de finalisation. Il a nécessité un an de travail et la traduction du lexique dans une structure hiérarchisée pour permettre l'insertion de 201 nouveaux concepts. Ce travail à la fois était utile pour le thésaurus et puis par rapport à la structuration de nos champs également et a entraîné la modification de différents concepts, la création de branches au sein du thésaurus, etc. Diapo suivante. Alors, une plateforme cartographique a été développée et est en cours d'alimentation sur ArcGIS Online et une application mobile a été créée également par Christophe Tuféry pour permettre la saisie des informations dès la phase de terrain. Et donc, les données de l'application mobile peuvent être reversées directement sur l'application cartographique qui est administrée par un système de modérateur. Et la plateforme cartographique elle-même alimente la base de données nationale. Diapo suivante. L'entrepôt de données Nacala a été choisi pour entreposer les données documentaires et dans un premier temps tout le fonds photographique à différentes échelles dans la perspective de créer une photothèque dans laquelle pourra aller puiser la base de données et une photothèque qui sera constituée en respectant, selon les protocoles 3IF. Diapo suivante. Donc, enfin, une collaboration avec la MMSH Aix-Marseille, avec la plateforme Arcadis, permettra l'enrichissement sémantique et la production de data papers à partir de l'ensemble de ces sources de données. Diapo suivante. Enfin, je voudrais souligner aussi les partenariats qui sont mis en place dans le cadre du réseau Cairn, à travers notamment le groupe base de données et référentiels, et les partenariats avec le PCR Pigmentothèque qui permettent en fait un échange sur les pratiques et de nourrir nos programmes respectifs. Diapo suivante. Donc pour conclure, l'enjeu actuel autour des lithothèques est donc bien d'opérer le passage d'un ensemble de lithothèques régionales aux historiques et réalités disparates vers un outil de recherche collectif. Collectif et partagé, afin de répondre aux évolutions des problématiques archéologiques actuelles, notamment technologiques et circulation à longue distance. Le potentiel d'information de l'existant sera ainsi accru et valorisé. Cet objectif passe par une mise en réseau national des équipes de recherche, la constitution d'outils partagés et l'harmonisation méthodologique. L'ensemble de ce dispositif, en s'appuyant sur un réseau, reste ancré dans la réalité des problématiques de recherche à l'échelon régional. Il ne s'agit pas d'une récolte de données à vocation patrimoniale, mais bien de la constitution d'outils de recherche pour répondre aux questionnements d'archéologie pré- et proto-historique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et désolée pour ces problèmes techniques.